franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et c'est le long combat des citoyens européens contre le glyphosate qui est aujourd'hui à la une de la science.
Alors c'est bien du Roundup.
Ça c'est du nouveau.
Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable.
Ça c'est l'ancien. Maintenant il ne marque plus biodégradable. Ben, là, donc bon. Ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, ça ne doit pas être vraiment biodégradable.
Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement.
Voilà un extrait du documentaire de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, sorti en 2008 et 9 ans plus tard. Nous voici donc dans ce qui sera peut-être la dernière année d'autorisation pour ce glyphosate, ce désherbant qui cristallise aujourd'hui les combats écologiques depuis plus de 20 ans avec une initiative citoyenne, procédure légale, qui invite donc la Commission européenne à légiférer et qui vient d'être lancée par une quarantaine d'associations. Le but est de recueillir, on le vous disait tout à l'heure, 1 million de signatures d'ici la fin de l'année. Nadine Loverja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes coordinatrice de l'association Génération Future qui participe justement à ce mouvement. Et avec nous en studio comme tous les lundis avec reporter.net, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors ce combat des associations Hervé et des citoyens contre le glyphosate, c'est une véritable saga, presque une épopée. Depuis combien de temps maintenant dure-t-il ?
Eh bien en fait ça remonte à 1950. C'est l'année où un chimiste suisse, Henri Martin, découvre une molécule, la N-phosphométhylglycine. Mm-hmm. Le problème c'est qu'il ne sait pas à quoi ça sert. 20 ans plus tard, vers 1970, le chimiste John France, qui travaille chez Monsanto, découvre que le N-phosphonométhylglycine a une utilité comme herbicide et Monsanto va le breveter sous le nom de Roundup en 1974 et commencer à le commercialiser. Comme c'est un herbicide facile à utiliser et très efficace, il rencontre un grand succès commercial et il va connaître une nouvelle vie avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés à partir de 1996, puisque Monsanto lance des plantes résistantes au Roundup. En 2011, 650 000 tonnes de ce pesticide ont été ainsi vendues dans le monde. Mais à partir des années 2000, les études scientifiques ont commencé à s'accumuler, montrant qu'il y avait une nocivité probable, voire certaine, du Roundup et de son principal composant, donc le glyphosate. Ouais. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme. Il y a eu des débats scientifiques, une bataille réglementaire aussi. Et comme l'autorisation européenne qui avait été accordée en 2002 au glyphosate expirait en 2016, le glyphosate a failli ne pas être reconduit, mais la Commission a choisi de prolonger son autorisation pendant 18 mois, donc jusqu'à la fin 2017. Et c'est dans ce contexte que les associations veulent peser par cette initiative citoyenne européenne.
Alors Nadine Loverja, le glyphosate, il est déjà en sursis d'un point de vue de la Commission européenne parce qu'il a été réautorisé pour 18 mois temporairement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation actuelle ?
Oui, alors ça c'était déjà une forme de victoire parce qu'en effet à l'époque, au moment où le glyphosate était revenu sur la table et au moment où d'ailleurs la décision en effet du CIRC de le classer comme cancérogène probable tombe, les industriels escomptaient certainement obtenir l'autorisation assez facilement pour 14 années supplémentaires et la levée de bouclier, j'ai envie de dire à la fois déjà à ce moment-là de la société civile mais aussi d'un certain nombre de scientifiques a fait que les votes ont été plusieurs fois repoussés et les États membres n'ont pas d'ailleurs réussi à se mettre d'accord sur cette réautorisation pour 14 ans. Il y avait déjà eu un premier vote où ça avait été rabaissé et donc là on est tombé sur 18 mois, ce qui était déjà une forme de victoire, mais pas suffisante évidemment pour les associations hein, qui veulent carrément son retrait évidemment. Mais malgré tout, voilà, on a obtenu 18 mois avec cette position et cet avis de l'ECHA, donc l'autorité européenne qui statue sur les substances chimiques, qui doit tomber à l'automne, en début de l'automne. Et puis et donc à ce moment-là, de nouveau, il y aura un vote à la fois des États membres et sur la proposition que la Commission fera à l'automne.
Alors que comptez-vous demander à la Commission européenne si ce recours qu'est l'ICE, Initiative Citoyenne Européenne, allait au bout du million de signatures ? Qu'est-ce qui encadre vraiment ce genre de recours ?
Alors, notre ICE, celle que nous avons déposée à plusieurs, contient la demande d'interdiction en fait du glyphosate sur la base des études d'ailleurs qui confirment sa cancérogénéité. Pardon. Dans le cadre du règlement européen, d'ailleurs, ce classement cancérogène par le CIRC devrait suffire normalement à le faire retirer du marché. Mais elle va plus loin, l'ICE, elle demande aussi une remise à plat de l'homologation et de la mise sur le marché des pesticides, notamment en incluant les études scientifiques qui ne sont pas toujours prises en compte, parce qu'on se base, vous savez, sur les études industrielles qui d'ailleurs sont souvent assez secrètes, on n'arrive pas à obtenir l'ensemble des éléments, les données brutes de ces études, ce qui fait que ça met une sorte de suspicion sur la mise sur le marché de ces produits. Et donc là, l'ICE demande aussi une remise à plat de ce système d'homologation et de mise sur le marché des pesticides.
Juste pour clarifier, une ICE, c'est quoi ? C'est une pétition ? C'est plus que ça ?
C'est plus qu'une pétition. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu contraignant d'ailleurs pour les personnes qui ont signé. Il faut savoir qu'on a déjà reçu 243 000 signatures au niveau de l'Union européenne, avec alors un gros nombre de signatures en Allemagne, d'ailleurs pays qui fait un peu, pression pour que le glyphosate continue à être sur le marché, contrairement à la France, qui a plutôt une position intéressante. En France, nous, on doit obtenir 55 500 signatures, on est à 10 000, donc on invite vraiment les gens à signer, mais il faut qu'ils donnent aussi leur numéro de carte d'identité, parce que justement, c'est un caractère très institutionnel, très officiel et très fort, c'est-à-dire que pour pouvoir contrôler que ce ne sont pas de simples pétitions, comme on en a eu d'ailleurs beaucoup sur le glyphosate, on demande un niveau de preuve supplémentaire, qu'on est bien des résidents et des citoyens de l'Union européenne, et donc c'est vraiment un acte démocratique et une démocratie participative très forte quand on va signer cette ICE. On s'implique vraiment dans, on espère en tout cas, une nouvelle législation sur la question des pesticides.
Hervé Kempf.
Aux États-Unis, pendant le même temps, en ce moment même, l'EPA, l'Environmental Protection Agency, le ministère de l'Environnement des États-Unis, a engagé une procédure de réautorisation sur le glyphosate et le Roundup. Et dans le contexte avec le nouveau gouvernement de M. Trump, est-ce que l'autorisation devrait être sans doute accordée ? On peut l'imaginer. Quelles conséquences ça aurait sur l'Europe ?
Alors c'est vrai que ça risque de donner un mauvais signal, en tout cas pour nos décideurs au niveau européen, malheureusement. Sachant que là, évidemment, on est dans une situation où les États membres ont leur mot à dire. Donc ça complexifie un peu la tâche pour la Commission qui est parfois un peu sous l'influence des lobbies sur ce sujet-là. Et on voit bien, d'ailleurs, notamment sur le dossier des perturbateurs endocriniens, traîne des pieds, va pas forcément dans le sens de la protection de la santé et de l'environnement. Et le fait est qu'on est, nous, avec par exemple la France, mais la Suède aussi, pas mal les pays scandinaves ont des positions assez tranchées sur cette question d'exclusion des molécules les plus polluantes ou les plus dangereuses d'un point de vue de santé. Ça nous laisse quand même une marge de manœuvre supplémentaire par rapport aux États-Unis. On ferait, alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cadre d'accords transatlantiques, on le sait hein, en ce moment avec le CETA qui est en cours de négociation. Donc on pourrait imaginer que si ces accords étaient signés, en tout cas, l'Union européenne serait obligée d'inclure sur son marché ces produits chimiques, ce qui serait évidemment une mauvaise nouvelle, sachant que nous, on a une réglementation plutôt protectrice par rapport à celle des États-Unis, par exemple.
Le Roundup est toujours autorisé par le Canada, parce que dans deux jours, en fait, le Parlement européen va discuter et faut sans doute voter le CETA, l'accord entre l'Europe et le Canada. Est-ce que le Canada autorise le Roundup ?
À ma connaissance, il est toujours autorisé. Le seul pays qui a, en tout cas le glyphosate, hein, parce que le Roundup, c'est la matière, le produit commercial, donc qui contient à la fois le glyphosate. Pour ce qui est du glyphosate, le Sri Lanka, par exemple, est l'un des pays dans le monde à avoir définitivement interdit l'utilisation du glyphosate sur son territoire. C'était une première. Évidemment, comme on l'a évoqué, le glyphosate et le Roundup sont les herbicides, et c'est l'herbicide et le pesticide le plus vendu au monde. Donc les enjeux commerciaux autour de cette molécule sont colossales, et vous l'évoquiez, Hervé Kempf, c'est très lié aussi à l'utilisation des OGM qu'on n'a pas aujourd'hui en Union européenne, mais qui pose évidemment cette question de l'introduction ensuite de cette molécule sur le territoire.
Nadine Loverja, est-ce que l'utilisation du Roundup dans nos pays est quand même en train de baisser depuis quand même un certain nombre de publications qui sont sorties depuis les années 2000 ou pas ?
Alors, ce qu'on constate et ce qui est sûr, c'est que par exemple sur les usages amateurs, vous savez aujourd'hui depuis le 1er janvier de cette année, il est interdit de vente en vente libre tous les pesticides, pas uniquement le Roundup, tout l'ensemble des pesticides, donc ça complexifie la vente et donc d'ailleurs on a vu nous dans certains supermarchés, pour éviter cette mise sous clé, ils ont carrément retiré les molécules des rayons, ce qui est donc une première avancée qui est intéressante. Et aujourd'hui même les agriculteurs qui sont les premiers utilisateurs de ces molécules se posent beaucoup de questions. Nous on a d'ailleurs des interpellations notamment sur cette question de la nocivité, de l'impact sanitaire des molécules. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs en France une augmentation des surfaces agricoles en bio. Ça veut dire qu'on n'a pas évidemment révolutionné le système, puisqu'on a vu que les derniers chiffres des Cofito sur les réductions des pesticides n'étaient pas bonnes, même si on a eu une légère baisse, mais qui d'ailleurs un peu en trompe-l'œil. On avance quand même, et en tout cas la prise de conscience est là, ça c'est sûr.
Alors, vous demandez également dans cette ICE à ce que le processus de validation des futurs produits phytosanitaires soit renforcé ou changé. Est-ce que vous avez des propositions particulières ?
Déjà, comme je l'évoquais au début, il sert qu'il faut une meilleure prise en compte de la science, et de la science des revues à comité de lecture, donc celles qui ne sont pas toujours prises en compte, et puis aussi, surtout, une évaluation, notamment sur les produits commerciaux, sur les impacts chroniques. On sait aujourd'hui que ces impacts-là ne sont pas évalués de manière correcte, donc nous, ce qu'on demande, c'est que, et ils ne sont pas évalués du tout, d'ailleurs, la toxicité chronique, elle est faite pour la molécule, la substance active, mais pas pour le produit formulé. Or là, on a ce qu'on appelle le risque d'effet cocktail, qui est sous et mal évalué. Donc là, on demande aussi une remise à plat de l'évaluation à ce niveau-là.
Chronique veut dire plusieurs années de tests, puisque chronique, on ne peut pas trouver un résultat scientifique en un an ou sur des rats. Il faut répandre le produit.
Tout à fait. Alors, il faut évidemment une évaluation sur plusieurs années, mais elle est déjà commencée. On a déjà quand même certaines études qui ont été menées et du recul. Il faut quand même savoir que les pesticides, en tout cas dans leur usage intensif, sont mis en œuvre depuis les années 50. Donc, on a quand même aujourd'hui un peu de recul et des études de plus en plus importantes sur ce sujet. C'est l'une, finalement, les substances qui sont presque les plus documentées aujourd'hui, quoi.
Merci Nadine Leverja, coordinatrice de l'association Génération Future, et donc une affaire à suivre également sur le site reporter.net, RVKM. Enfin, merci. Merci Hervé, à la semaine prochaine, et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.